donne la colique. Veut tout partager pour qu'on ait tous à manger. Qui saurait me dire ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils ne l'ont pas cherché? Oui, et ça me fait rire de les voir courir partout pour aller planquer leur sou. Ou en Amérique, ou des bolcheviques. Avant de partir en Sibérie, manger des souris et des pissenlits. Avec une faucille et un marteau, la vie de château, c'est fini, Toto. Il faudra filer comme des moutons. Qui leur donne la colique, veut tout partager pour qu'on ait tous à manger. Qui saurait me dire ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils ne l'ont pas cherché? Oui, et ça me fait rire de les voir courir partout pour aller planquer leur sou. En confédération helvétique, ou en Amérique, ou en des bolcheviques. Avant de partir en Sibérie, manger des souris et des pissenlits. Avec une faucille et un marteau, la vie de château, c'est fini, Toto.
Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité.
Et c'est Jeudi Noir donc qui commence. Ce jeudi, nous allons vous parler d'un livre d'un de nos auteurs
fétiche,
comme dit Jean-Mathias, j'allais dire favori, préféré. Moi, comme j'ai un altimètre philosophique extrêmement précis, je dirais un des plus grands philosophes du XXe siècle.
Ça, c'est beau.
Mais
moi, comme je suis fétichiste, dis qu'il est fétiche, quoi.
Oui, d'accord. Voilà. Mais bon, en fait, mon altimètre, bon, il est pas terrible. Hein. C'est comme les profondimètres pour dire qu'un philosophe est profond. J'ai jamais trop su ce que ça signifiait. Peu importe. Vous venez d'entendre des bulldozers, l'ogre bolchevique, un morceau de 1978, pardon. Je me suis trompé. Le 7, le 1, ça se ressemble. Qui a été sélectionné donc par José, je connaissais pas ça.
Et ça a gagné à être connu. Hein.
Ça a gagné à être connu, parce que c'est un bon petit morceau punk sur le gros bolchevique. Et donc ce soir, donc, je vous dis, on va vous présenter un bouquin de Russell, un bouquin qui n'est pas très très connu, qui n'est pas forcément facile à se procurer en français. Il a été édité au Mercure de France il y a assez longtemps. C'est très facile de le trouver en anglais pour les anglicistes. Pas trop cher un peu partout. Et puis sinon, bah, vous pouvez farfouiller sur Internet. Mais bon, voilà, avec Jean-Mathias, ça fait partie de nos lectures, comment dire, critiques anarchistes ou critiques de gauche du bolchevisme. Et on trouve que c'est des, il y a des, comme ça, quelques bouquins qui ont été édités dans les années 20-30, qui ont des perles, d'un point de vue politique. De temps en temps, on vous en cause
Faut que tu donnes le titre quand même. Hein.
Oui, donc oui, tu as raison. Pratique. Donc le titre, c'est Pratique et théorie du bolchevisme.
Et là, tout à coup, dans l'œil de l'auditeur, s'allume une lueur et il fait le lien
avec l'ogre bolchevique.
Avec l'ogre bolchevique qui a ouvert l'émission.
Voilà, donc Bertrand Russell, Pratique et théorie du bolchevisme. C'est le bouquin dont on va vous parler ce soir avec Jean Mathias. Et voilà, avec au sujet d'un de nos auteurs fétiches.
Absolument. je confirme ça. Et du coup, oui, bah, peut-être pourquoi tu as parlé de ces bouquins des années 20-30, en fait, c'est vrai qu'il est, ça fait partie de ces livres de témoignages critiques, mais ils n'ont pas tous été critiques, hein, des espèces de grandes figures de l'Ouest, on pourrait dire, mais on ne le dit pas encore l'Ouest à l'époque, hein, mais
Russell parle du monde occidental.
Du monde occidental, alors effectivement, qui directement après la Révolution russe et puis après l'armistice de 18, en fait, souvent, vont du coup aller en délégation, alors soit voilà, des socialistes français ou des libertaires français aussi, des syndicalistes libertaires, des syndicalistes révolutionnaires, ce qu'il en restait après la Première Guerre mondiale, des travaillistes anglais, enfin des délégations qui viennent en fait.
Là, Russell, il va avec les travaillistes anglais.
Voilà,
il va y passer un peu plus d'un mois.
Ouais.
Alors, c'est un truc assez fou parce qu'il rencontre, il passe une heure avec Lénine en tête à tête.
Ouais.
Il rencontre Trotsky, semble-t-il, plus en public, mais c'est un peu compliqué.
Il les voit dans la scène où il voit Trotsky, c'est à l'opéra.
À l'opéra,
c'est extraordinaire.
C'est assez fou. Sa description de Lénine aussi est plutôt croquignolesque. Il rencontre Kamenev, qui aujourd'hui est beaucoup moins connu, mais qui à l'époque était une figure marquante de la révolution russe. C'est celui qui, si je ne me trompe, a écrit l'ABC du communisme, qui a été plus tard assassiné par Staline. Dans les années 30, après l'assassinat de Kirov et pendant les grands procès de Moscou. Mais donc il va y aller et il y va avec justement l'idée que le capitalisme est un très mauvais système qui est perdu à plus ou moins moyenne échéance.
Peut-être dire deux mots quand même sur la trajectoire politique de Russell, puis peut-être sur Russell tout simplement, parce que alors on a déjà parlé dans cette émission, mais il y a quand même quelques temps. Russell est d'abord c'est un aristocrate de très haut rang anglais, hein, c'est-à-dire qu'en fait il est pas de la famille royale, mais il en est pas loin.
Son frère siège à la Chambre des Pairs. Son grand-père était premier ministre au 19e siècle de la reine Victoria.
Exactement.
C'est quelqu'un qui vient de la haute, littéralement.
Très haute société britannique. Alors après, il a une particularité, c'est que alors il travaille pas, hein, il a largement les rentes pour ne pas le faire. Après, c'est un des plus grands mathématiciens et plutôt théoriciens des mathématiques et logicien de la fin du 20e siècle, hein. Donc il enseigne à Cambridge, il va être un des maîtres de la plupart des plus grands philosophes britanniques ou émigrés en Angleterre, comme Wittgenstein, comme Moore ou des gens comme ça. Donc c'est un intellectuel de très 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 haut niveau.
C'est lui qui casse la théorie des ensembles avant de la réparer, provoquant quelques suicides parmi les mathématiciens. Enfin là j'exagère un petit peu, je dramatise, mais bon.
Bah, t'as des mathématiciens émotifs, hein,
ils ont le droit.
Donc un intellectuel et un universitaire de très 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 haut niveau, d'origine donc aristocrate, de milieu aristocrate, et en même temps c'est un militant politique, alors qui a une trajectoire intéressante parce qu'en fait il est câblé libéral britannique, mais libéral
au sens Whig.
Voilà, au sens Whig, c'est-à-dire attaché à la démocratie, au droit individuel,
à la liberté du commerce,
à la liberté d'expression. Donc il part de ça, donc une espèce de libéralisme politique à l'ancienne, je dirais, à l'anglaise, mais assez qui va l'amener en 14 par exemple à se positionner.
Alors, qui serait assez logique pour sa classe sociale,
oui.
Comme trajectoire politique, comme un truc qui est potentiellement pourvoyeur de carrière. Mais le truc, c'est qu'en fait, il va être cohérent dans son whiggisme.
C'est ça.
Et ça se manifeste quand la guerre de 14 éclate. Alors, on a fait une émission sur un bouquin qui était sorti, qui s'intitulait « Le pacifisme et la révolution » aux éditions Agone.
Qui l'amène, du coup, à défendre un pacifisme radical, refus de la guerre.
Qui va l'amener en prison, qui va lui faire perdre une partie de ses biens personnels.
Ouais.
Parce qu'il est... En fait, il n'est pas si riche que ça, hein, d'après ce que je sais. Il a globalement, la fortune familiale est partie chez son frère massivement, et puis lui, il n'est pas tellement d'argent. Et il avait son poste de prof, et il le perd justement en 16 ou en 17. Il va faire un peu de prison, et à l'issue justement de la guerre de 14-18, Il est convaincu, il se rapproche du socialisme.
Il se rapproche du socialisme et il va avoir développé aussi une œuvre. Alors, tout au long de sa vie, hein, il a eu un travail scientifique, mathématique et logique extrêmement technique, extrêmement ardu, de très très haut niveau. Et en même temps, en parallèle, et ça c'est assez remarquable parce qu'il n'y a pas tellement d'équivalent, il développe aussi une œuvre en philosophie morale et en philosophie politique. Alors en même temps, c'est une conception de la philosophie dans le domaine moral et politique qui n'est pas du tout théoricienne, ni abstraite, ni technique. C'est-à-dire que tous ces textes sont très accessibles. Il y a des textes en philosophie morale qui sont très connus de lui, notamment contre le mariage.
Contre le christianisme.
Voilà, I'm not Christian. Et qui vont lui valoir d'ailleurs des soucis après dans sa carrière d'enseignant, hein, puisqu'il va se voir interdire un certain nombre de postes pour ses prises de position. Et en politique, donc en fait, ça, son itinéraire, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est qu'il part effectivement d'une espèce de libéralisme d'aristo progressiste, on va dire, voilà.
À l'aise dans le monde.
À l'aise dans le monde, voilà, sans conscience sociale particulière. Et en même temps, la Première Guerre mondiale va l'amener en quelque sorte à tirer des conséquences cohérentes, quoi. Conséquente pour le coup de ces positions-là et qui vont l'amener donc à se rapprocher du socialisme. Alors un socialisme pareil, c'est le mouvement en Angleterre, c'est ce qu'on appelle le socialisme de guilde, qui est un socialisme un peu qui n'est pas révolutionnaire, qui est assez radical par contre dans ses finalités, dans ses méthodes, mais qui se veut scientifique. C'est un socialisme scientifique mais non marxiste. Donc c'est de ça qu'il se rapproche et en même temps il est tout sauf un sectaire, Russell. C'est-à-dire qu'il est attentif à toutes les différentes formes de socialisme et il y a des textes aussi dans lesquels il se positionne de manière très proche de la tradition anarcho-syndicaliste par exemple.
Il le dit dans Les routes vers la liberté.
Les routes vers la liberté, alors qu'il y a un texte qui n'a pas été traduit non plus depuis très longtemps, donc au départ Roads to Freedom, qui est une espèce de manuel de présentation critique mais très très clair, très très bien fait. Des différentes formes de socialisme. Et en fait, celle dont il se rapproche le plus, du point de vue de l'histoire du mouvement ouvrier, c'est l'anarcho-syndicalisme. Parce qu'en fait, c'est un libéral libertaire, on va dire, hein, un libéral libertaire. Et donc, il est attaché effectivement à toutes les formes de socialisme démocratique, y compris dans leurs formes les plus radicales. Et derrière ça, ça s'appuie chez lui sur toute une réflexion qui est très pointu en fait, qui paye pas de mine à la première lecture, mais qui est toujours très précise et très pointu sur au fond la psychologie humaine, je dirais, les différents types de pulsions et les différents types d'instincts qui peuvent entrer en jeu dans les comportements et dans les décisions humaines. Et en fait, il a toujours le souci de développer une vision politique qui soit réaliste de ce point de vue-là, c'est-à-dire qui n'attende pas de l'homme des comportements qu'il n'a pas, ou qui ne le voit pas l'homme tel qu'il devrait être et non pas tel qu'il est. Et c'est toujours à l'aune de ça, en fait, hein, qu'il évalue les systèmes, les programmes politiques, avec des visées morales toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas. Alors ça, c'est une constante chez lui, peut-être un reste effectivement de son libéralisme de départ. C'est-à-dire qu'en fait, il n'accepte pas qu'on puisse faire une politique amoral ou immoral non plus.
Mais c'est ça qui le rapproche aussi du libertaire, parce que Malatesta, dans des textes, défend l'idée que si on utilise de mauvais moyens, on finira forcément par atteindre une mauvaise fin. Ouais. Et que les moyens conditionnent la fin. Donc c'est une base de l'opposition au bolchevisme.
Et c'est un libéral qui va rester. C'est un des libéraux les plus sympathiques qui soient, puisqu'au fond, prenant le libéralisme au sérieux, il va être amené à défendre une position dans laquelle, au fond, son libéralisme est synonyme de contre-pouvoir en permanence. C'est-à-dire qu'il n'adopte pratiquement jamais un point de vue qui est très très répandu chez les philosophes, qui est celui du philosophe roi qui remonte à Platon, et qui va du philosophe qui serait en quelque sorte d'un point de vue surplombant, qui lui donnerait encore un savoir particulier qui lui permettrait de faire des modèles, de faire des utopies, de faire des systèmes de lois, de faire des plans, des stratégies. C'est pas du tout comme ça que fonctionne Russell. Russell part toujours, la plupart du temps, il part des faits, et c'est ce qu'il fait dans le livre, là, sur l'Union soviétique. Toute la première partie, en fait, c'est son compte-rendu de voyage, hein, c'est ses carnets de voyage, ses rencontres, ses questionnements, ce qu'il a vu. Il décrit, est très attaché à ce qu'il peut voir de manière directe, hein, à évidence directe, et donc il part toujours de ça dans ses réflexions politiques, et après, il raisonne toujours avec cette espèce de rigueur de logicien. et en même temps de manière toujours très accessible, très, très transparente. Et là, la deuxième partie du livre est donc une analyse plus critique. Ben, donc le titre est d'ailleurs assez éloquent, assez pratique, et théorie du bolchevisme.
C'est pas l'inverse.
C'est pas l'inverse. Et c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de partir des faits, de ce qu'on peut constater, la manière dont ça se passe. Et c'est pas un perbreu de l'année. Hein. C'est-à-dire qu'il mesure la situation. Il est en 1920, donc il mesure la difficulté dans laquelle se retrouvent, y compris les dirigeants bolcheviques, hein, qui va critiquer par ailleurs. Mais il a aucune illusion de ce point de vue-là. Et ensuite, effectivement, il a une analyse de la théorie, c'est-à-dire voilà, des concepts, des catégories, des stratégies qui sont proposées par les bolcheviques, qui viennent de triompher de 3 ans plus tôt. Et il voit juste, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il a des sympathies. C'est pas un anticommuniste, quoi. C'est pas un anticommuniste, c'est pas un antiprolétaire, c'est pas un.
Non, il est déjà anticapitaliste.
Il est anticapitaliste. Alors,
simplement
pas
à tout prix. Voilà. C'est-à-dire qu'il se demande, il se pose toujours la question de savoir si toutes les formes de socialisme valent mieux que le capitalisme actuel. Ouais. Et au sujet du bolchevisme, on verra qu'il a qu'il pense qu'en fait, malgré tout, c'est un échec. Ouais.
Mais il pense que c'est un échec pratique et théorique.
Oui, les deux.
Voilà, pratique et théorique, et il voit très vite, alors il n'est pas le seul, hein, mais 1920, il n'y en a pas quand même pas tant que ça.
Non, parce que des gens comme Alexander Berkman Emma Goldman tireront des conclusions un peu analogues aux siennes, mais plus tard, après Kronstadt.
Mais plus tard, alors après...
Un ou deux ans plus tard.
Après, bon, alors Emma Goldman, elle participe à la Révolution, hein, c'est comme c'est des gens comme Victor Serge, des gens comme ça, c'est-à-dire qu'en 1920, ils sont encore pris dans le processus. Alors c'est vrai que il voit les choses, hein, Russell est extérieur, hein, bon, c'est quand même, bon, après il vit dans l'Union soviétique, puis après il rentre chez lui, hein, donc bon, il a ce confort-là, il a la... Mais bon...
Mais il y va avec un a priori plutôt positif. Ouais, ouais. Avec l'idée que ça peut être intéressant et qu'il peut peut-être se passer des choses bien là-dedans.
Tout à fait. Bah, il part sans a priori, en fait. Il part sans a priori. Hein,
il le dit à un moment, il dit, je suis parti quand même un sentiment pro-bolchevique. Ouais. Puisque le capitalisme, ce qu'elle avait donné après la guerre de 14-18 en Angleterre, le dégoûtait profondément. Et qu'il pensait que c'était un système intenable. En termes d'organisation de la répartition des richesses, en termes du rapport à la guerre, du rapport à la nature. Il est critique, c'est une critique à peu près totale du capitalisme qu'on trouve chez lui.
Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que c'est tout, et ça c'est quand même hautement sympathique, c'est tout sauf une analyse d'état-major, quoi. On est aux antipodes de ça, c'est-à-dire que il a une position philosophique assez rare, en fait, je trouve. C'est effectivement, on part des faits, on part des témoignages, des constats qu'on peut faire, et ensuite on essaye de raisonner de manière précise, sans se raconter d'histoire et sans se payer de mots. Voilà. Et en essayant de voir si effectivement ce qu'on dit correspond à ce qu'on serait capable de faire, ou ce qu'on pense que les autres sont capables de faire, ce que soi-même on est capable de faire, et ne pas se raconter d'histoire. Voilà, hein, ne pas se laisser embarquer dans des spéculations ou dans des
alors, je reviendrai peut-être un peu, mais par exemple une analyse qui me fait bien marrer, c'est au chapitre 2. Bon, il parle de l'interprétation, de la différence d'interprétation qu'on peut faire de l'expression dictature du prolétariat. Et ça, c'est vraiment la manière de Russell. Il dit à l'Ouest, alors ça, l'Ouest n'existe pas dans le monde occidental, disons, dans dictature du prolétariat, par prolétariat on entend les ouvriers, par dictature on n'entend pas vraiment dictature. On entend un autre truc, un truc plus cool. Il dit, mais par contre, chez les bolcheviques, c'est complètement l'inverse. Par dictature, ils entendent vraiment dictature. Ils plaisantent pas. Par contre, par prolétariat, ils entendent prolétariat conscient, c'est-à-dire en gros Lénine, qui n'est pas du tout un prolétaire. Et je trouve que ce genre d'analyse c'était un peu typique de son truc. C'est genre, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? Qu'est-ce que vous voulez dire, la dictature du prolétariat, ça veut dire quoi? Ah, en fait, on ne parle pas de la même chose. D'accord.
Bah, c'est même pas qu'est-ce que vous voulez dire. C'est qu'est-ce que vous faites de ces mots-là.
Qu'est-ce que vous faites de ce mot-là.
Qu'est-ce que vous faites de ces mots-là. Parce que ce que vous voulez dire, on comprend. Enfin voilà.
Quand il dit j'arrive de l'Ouest et dictature du prolétariat, dictature, c'est pas vraiment dictature. Et moi, j'aime bien parce que il y a un côté très 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 comment dire très brutal dans l'analyse en même temps. Soit c'est tac comme ça.
Tu retrouves là pour le coup le
côté logicien.
Ouais, le côté logicien. C'est effectivement prenons les mots, quel est leur sens, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux,
c'est ça,
à quoi ça correspond, quelle réalité ça renvoie, ça c'est assez agréable.
Et donc bon, moi je vais vous parler peut-être un peu du... est-ce qu'on fait une pause ou pas?
Voir comment, juste présenter comment le bouquin est fait, quoi, c'est-à-dire effectivement les premiers, la première, les deux parties, ouais, si tu...
Alors,
Peut-être quand même dire, quand même, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la tradition des récits de voyage en Urse, par exemple, il y a celui de Régide, très connu évidemment, qui doit être de 21 ou 22, je crois, ou peut-être un peu après. C'est assez rapide aussi, hein, qui est très connu, qui est bien, hein, qui est intéressant aussi. Mais bon, puis après il y a tous les textes, les témoignages de la gauche anti-bolchévique, hein, qui vont petit à petit. Donc voilà, donc il y a les textes de Silinga, les textes de Serge, etc.
Anton Chiliga, c'est 10 ans au pays du mensonge déconcertant.
Voilà,
C'est vachement bien, ça s'étend de 27 environ à 33, je crois, à peu près. Ça, ouais. Parce qu'il a la chance de pouvoir partir avant le début des massacres d'opposants en fait. France.
Bon, il y a Souvarine, évidemment, le chef
Boris de Souvarine, sur Staline.
Mais tous ces livres-là sont des. Bon, il faudrait peut-être qu'on prenne le temps d'ailleurs d'en parler. Mais. Exact.
Répète, parce que les auditeurs n'ont pas entendu José.
Madeleine Pelletier,
tu nous le. Ouais, je crois que j'ai. Anarchiste française, que je connais pas. Ouais, ok. Bah, donc c'est vrai que c'est une tradition un peu ces livres-là. Donc il y a des chefs-d'œuvre dans le lot. Celui-là, c'est quand même, il est absolument remarquable. Du point de vue de l'analyse, alors en tout cas la première partie elle ressemble souvent à ce qui est fait, mais les portraits qui sont faits là que tu as évoqué, là, de Staline, Kamenev, Lénine, Trotsky qui arrive dans sa loge.
Pas Staline.
C'est Lénine, hein, qui rencontre. Il rencontre pas Staline. Staline n'existe pas.
Non, ça n'existe pas à ce moment-là. Donc,
et ça c'est des points qui sont assez impressionnants. Et la partie d'analyse critique des théories bolchéviques, je connais pas mieux en fait. Moi, je connais pas mieux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de précision conceptuelle et en termes de démontage, et faut dire, on va le dire directement, ça tient exactement en. Ça commence à la page. Ça tient exactement en 80 pages. Voilà, en 80 pages, et tout est dit. Hein. On lira des passages tout à l'heure. Mais donc, c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein, ce bouquin-là, Pratique et théorie du bolchevisme.
Bertrand Russell, voilà. Vous pouvez le trouver dans une vieille collection, donc Mercure de France, ou sur Internet.
Voilà.
Un peu de musique.
Première pause.
When I was a lad in 1906, I joined a band of Bolsheviks. I read the manifesto in the Skapita, and I even learned to sing the International.
And I even learned to sing the International.
And I sang that song with a ring so true that now I'm in the prisons of the gay PayU.
And he sang that song with a ring so true that now he's in the prisons of the gay PayU.
When Lenin his boys' insurrection made, I found myself on the barricade. On Kerensky's troops I turned my gun, and I didn't stop shooting till the Reds had won.
And he didn't stop shooting till the Reds had won.
And I fired that gun with a name so true that now I'm in the prisons of the gay PayU.
And he fired that gun with a name so true that now he's in the prisons of the gay PayU.
When Nep was started and Lenin died, I found myself on Trotsky's side. All went well till 28, and then I was forced to capitulate.
And then he was forced to capitulate.
And my capitulation had a ring so true that now I'm in the prisons of the gay PayU.
And his capitulation had a ring so true that now he's in the prisons of the gay PayU.
From then till now I've had no peace. My steps have been dogged by the secret police. Denounce the opposition time and again. I denounce the opposition with tongue and pen.
He denounced the opposition with tongue and pen.
And my denunciation had a ring so true that now I'm in the prisons of the gay PayU.
And his denunciation had a ring so true that now he's in the prisons of the gay PayU.
Now diversion is sore wherever you may be. If you want to do as well as me, confess to revolution and espionage, to wrecking railroads and sabotage.
To wrecking railroads and sabotage.
Adhere to the line of Lenin too, and you'll end up in the prisons of the gay PayU.
Adhere to the line of Lenin too, and you'll end up in the prisons of the gay PayU.
Oh,
bonsoir, c'est Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour la deuxième partie d'une émission consacrée à Bertrand Russell, pratique et théorie du bolchevisme. Alors vous avez dit une grosse bêtise dans la première partie de l'émission, vous avez dit que c'était que deux vieilles éditions, c'est celle qu'on a en fait. Mmh. Mais en fait, ça a été réédité en 2014 aux éditions du Croquant.
Ouais, tout à fait, avec une introduction de Normand Baillargeon et de Jean Bricmont. Donc c'est un donc il doit être encore accessible hein, puisque 2014
c'est assez récent.
Ouais, c'est assez récent et donc introduction de Normand Baillargeon, très bien. C'est un des connaisseurs de Russell, ça doit valoir le coup. Donc
c'est un Québécois, un anarchiste qui avait publié L'ordre sans le pouvoir, des choses comme ça. Bon, Bricmont est plus louche mais Alors, donc dans la première partie du bouquin, donc pratique et théorie du bolchevisme, Russell relate en quelque sorte les observations de son voyage, ce qu'il a pu en tirer. Un voyage qui a duré un peu plus d'un mois, en 1920. Donc, c'est très tôt mine de rien pour en tirer autant d'informations, je trouve. Et c'est là qu'on voit la force du bonhomme, parce qu'il va tirer aussi vite des conclusions que tireront d'autres un peu plus tard, peut-être d'autres que lui et dire au même moment, j'en sais rien, mais malgré tout c'est assez lucide. Et la base de son analyse à des tas de niveaux, je crois, c'est que le bolchevisme est une religion. Et c'est pour ça qu'il va partir de l'espoir suscité par la révolution russe. En disant, c'est quelque chose qui est fondamental. Et parce que justement, après le désespoir de la guerre, le bolchevisme apporte un espoir incroyable, et le souci pour Russell, un espoir incroyable donc dans l'espoir d'un monde meilleur que celui que le capitalisme nous impose, mais le souci pour Russell, c'est que c'est un espoir de nature religieuse qui engendre le même type de fanatisme que l'on peut trouver dans le christianisme.
Et surtout dans l'islam. Il y a des passages là,
Au début, il parle vraiment du christianisme, des premiers chrétiens, de ceux qui donnent leur vie pour la cause. Et lui, ben, d'une part, il est vraiment convaincu que le capitalisme est condamné, ça il le dit. Et il pense que quelque chose de nouveau va surgir. Et un truc que j'avais, en le relisant là, je suis retombé sur un truc complètement fou que j'avais complètement oublié. Parce qu'il dit, ce nouveau sera soit une forme de socialisme, soit un retour à la barbarie. Donc c'est à se demander si, alors je crois que ça m'étonnerait beaucoup que Castoriadis et les autres du groupe socialisme ou barbarie... dans les années 50, en France, des marxistes.
Se sont inspirés de ça,
mais malgré tout, la formule est telle qu'elle. Et donc, pour lui, c'est soit le socialisme, soit une forme de barbarie.
Bah, la barbarie, dont il sort, c'est la guerre, quand même.
C'est la guerre. C'est la destruction de la civilisation. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a en tête, il a plus ou moins en tête le modèle de la destruction de l'Empire romain. Parce qu'il dit, si on détruit tout avec une guerre mondiale massive, on en a peut-être pour 1000 ans à reconstruire quelque chose de valable. Et je me dis qu'il a peut-être le Moyen Âge en tête quand il dit ça. Alors, je sais pas, c'est une hypothèse. Et donc lui, il est convaincu malgré tout, et il le dit dès le début du bouquin, que si la seule forme de socialisme qu'on a à opposer au capitalisme, c'est le bolchevisme, alors ce sera une barbarie.
Ouais, c'est le bolchevisme comme faux ami.
C'est ça.
Mais c'est vrai que t'as raison de replacer le contexte. Il faut quand même voir, on est 2 ans après la boucherie de la Première Guerre mondiale. Alors après, avec le recul, nous, on voit ça comme une catastrophe militaire, etc. Mais je pense qu'il faut se représenter ce que ça a été pour les élites ou les gens qui s'identifiaient aux élites cultivées européennes. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment un crash de valeurs, de toute la...
Colossal. Vous avez un auteur qui a écrit un très beau livre là-dessus, Stephen Zweig, c'est un livre qui s'appelle Le Monde d'hier, où justement, lui, il décrit cette rupture. Ce qu'il faut imaginer, c'est que, en fait, l'Europe, en 14, ça fait 100 ans qu'en Europe, c'est la paix. Alors, on a été faire la guerre en Afrique, on a été faire la guerre partout, on a semé la guerre dans le monde entier, mais en Europe, c'est la paix, c'est une paix massive entre le traité d'Hyènes de 1815 et 1914, parce que vous avez la guerre de Crimée, vous avez comme ça deux, trois escarmouches, entre guillemets, qui coûtent des vies, évidemment, mais qui ne sont pas significatives par rapport à la guerre de 30 ans, par rapport à la guerre de 100 ans, par rapport à tout un tas de guerres qui ont eu lieu, par rapport aux guerres révolutionnaires. Et globalement, l'Europe, ça fait 100 ans qu'on est en paix, et on se dit, ça y est, on a atteint une étape de la civilisation qui nous préserve de la guerre.
Et puis t'as une foi dans le progrès
qui est terrible.
Incroyable.
Et Stephen Zweig le montre bien, ça. Et lui, il a été élevé là-dedans, Russell aussi, ils prennent la guerre de 14, comme Freud aussi, comme une espèce de gigantesque baffe. qui détruit finalement les fondements de leur conception du monde.
Absolument. Et la confiance qu'ils avaient, justement, les missions civilisatrices de l'Europe, et puis voilà, une espèce de progrès inexorable de la culture, et confiance effectivement dans le fait que l'Europe était le continent phare de la chose. Les gens n'étaient intimement convaincus, pas tous des cyniques, exploiteurs, etc. Et notamment chez les intellectuels, c'est une catastrophe à peu près totale. Donc il y a les formules, il y a Valéry aussi, on peut penser à des gens comme Paul Valéry, et sur nous autres civilisations savons que maintenant que nous sommes mortels, et c'est à prendre au sérieux cette affaire-là. C'est-à-dire que là, la révolution russe, elle arrive aussi dans ce contexte-là. C'est-à-dire que alors il y a ceux qui n'y croient pas ou qui ne veulent pas y croire, hein. Et puis il y a ceux qui ont éventuellement une sensibilité socialisante comme Russell, qui du coup se pose la question sérieusement. Est-ce qu'on a là effectivement quelque chose qui donne des raisons d'y croire, de croire à la suite?
Et alors, ce qui est assez frappant, c'est que on a effectivement, comme tu le disais, une opposition anticapitalisme au bolchevisme, qui est très très proche de celle qu'on pourra retrouver beaucoup plus tard, 20 ans plus tard, chez Orwell.
De la part de Russell, tu veux dire?
Au sens où il voit finalement dans les débuts de l'URSS un danger pour une vraie révolution socialiste. Puisqu'il va dire justement que cet espoir dont il parle, suscité par la révolution bolchevique, a été sérieusement douché en URSS, du fait de la guerre civile, du fait de toutes les privations, du fait des circonstances propres à la Russie de cette époque. Mais il ajoute malgré tout qu'il y a un danger de bolchevisation du socialisme occidental. Alors que lui, il pense qu'il y aurait des méthodes moins brutales pour justement réaliser le socialisme.
Moins brutal, faut être clair là-dessus. Je pense que c'est un point important, je crois. C'est pas parce qu'il aime pas la brutalité. C'est parce qu'il pense que la brutalité est un problème politique. Ce qui est pas la même chose.
Oui.
Là, pour le coup, la condamnation.
Il aime pas la brutalité, mais malgré tout, il est du genre à compter. C'est-à-dire, qui est le plus brutal? On va choisir le moins brutal. Parfois, peut-être que la brutalité est inévitable si on veut modifier l'état des choses. Mais là-dessus, il est...
La brutalité, sauf que dans ce cas-là, c'est plus de la brutalité. C'est-à-dire qu'effectivement, que tu aies une violence nécessaire pour arriver à tel ou tel but, ça peut. Mais la brutalité, c'est paisiblement lorsque la violence devient en partie une fin en soi.
Oui, c'est ce qu'il dit. Mais malgré tout, chez lui, il y a toujours quand même le...
Il est pacifiste.
Il
est pacifiste, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut préciser aussi là-dessus, c'est que le pacifiste de 14-18,
il sera pas pacifiste en
39, hein. Donc c'est pas un pacifisme moral, hein. C'est pour le coup, il y a un pacifisme qui est d'ailleurs justifié pour des raisons politiques en 14-18, hein. C'est ce qu'il refuse, c'est la conscription obligatoire, c'est ce genre de choses. Donc au nom de la liberté de conscience et de l'objection de conscience individuelle, et en 39 par contre, face à la menace hitlérienne, là il n'hésite pas une seconde. Donc ça veut dire que c'est pas un non-violent
dogmatique,
hein, c'est ça exactement. Donc ces critiques de la brutalité, comme tu dis, effectivement là c'est une critique politique, hein, de la chose. C'est lorsque avec toujours la crainte que ce qui se présente comme un moyen, la violence politique, ne soit en réalité une fin.
Oui, c'est ce qu'il va dire.
C'est le...
Ah bon, justement, il va dire que c'est un des problèmes. C'est-à-dire que quand il pense, quand il parle de la brutalité, de la dureté qu'ont pu montrer les bolcheviks pour sauvegarder la révolution, il va dire il a un jugement qui a plusieurs niveaux, en fait. Il va d'une part accuser l'entente. Ça, c'est un argument intéressant, d'avoir causé justement les violences bolcheviques en finançant les armées blanches, en finançant tout un tas de mercenaires.
Donc l'entente, c'est les Anglais, les Français,
qui avaient financé en partie des armées contre-révolutionnaires. Il va dire que c'est pas tout à fait satisfaisant. C'est vrai, mais malgré tout, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Il dit que l'hostilité capitaliste était prévue par la théorie bolchevique. Ils savaient à quoi ils s'attendaient en prenant le pouvoir. Ils savaient qu'il y aurait des gens en face qui s'opposeraient à eux par la violence. Et donc ça, en gros, ils avaient déjà prévu qu'il faudrait continuer d'exercer la violence pour rester au pouvoir une fois qu'on a exercé la violence pour prendre le pouvoir.
Ce qu'il leur reproche, c'est de pas assumer ça.
Oui.
De pas assumer ça et de se positionner en victime d'une agression extérieure.
Il va un petit peu plus loin parce que là aussi, ça m'a fait marrer parce que d'une certaine manière, il anticipe sur ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc en disant que... Je vais traduire vite fait, que finalement l'épuisement et la misère causée par une guerre ratée, enfin une guerre perdue, étaient nécessaires au succès des bolcheviks. parce qu'une population prospère ne se serait pas embarquée, n'aurait pas été embarquée avec de telles méthodes dans une reconstruction économique aussi fondamentale. Et là, d'une certaine manière, il va dire oui, mais finalement, ils avaient besoin aussi des destructions causées par la guerre pour pouvoir imposer au peuple un départ à neuf. Donc effectivement, il ne va pas assumer, et puis après il va ajouter que le souci de minimiser la violence lors du processus révolutionnaire est très très rarement au cœur des préoccupations des révolutionnaires les plus vigoureux, voire au contraire.
Oui, il y a un appétit de la violence chez les bolcheviks, mais il y a un appétit de la violence pour la violence.
Oui.
Comme il va identifier très très vite un appétit du pouvoir pour le pouvoir.
Complètement. Donc là-dessus, alors lui, bon, dans son voyage, alors ça c'est le premier chapitre. Ensuite, le truc, c'est qu'il raconte des choses qui sont assez amusantes, comment il est accueilli avec la délégation travailliste. Il dit, au début, on a surtout des discours, des fêtes. C'est très très dur de rencontrer les Russes. Donc il faut un peu négocier pour pouvoir partir faire une balade sans forcément être accueilli par des soldats qui tirent en l'air quand ils te voient, enfin, ce genre de truc. Alors, il mentionne pas mal de choses qui sont intéressantes, parce qu'on est encore 1920, donc on est très très loin, à cette époque-là, d'une répression politique tout azimut, qui commencera plutôt en 26-27, avec l'élimination de Trotsky par Staline. Donc il va pouvoir quand même rencontrer l'opposition, c'est-à-dire les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, les anarchistes, ils n'ont pas encore été jetés en prison. Et même, il a pu rencontrer tout un tas de paysans et de gens des campagnes. C'est-à-dire que, malgré tout, à ce moment-là, le voyage n'est pas trop contrôlé. Et lui, il fait un portrait, il fait des portraits là-dessus, c'est pour ça qu'il fait des trucs qui sont assez marrants. Portrait du communiste bolchevique, qui veut dire qui est austère, qui est dévoué, qui est dur avec lui-même, et qui est tellement dur avec lui-même, et qui est tellement, finalement, désintéressé, qu'il devient impitoyable avec les autres. Et ça, dans la figure des militants, c'est quelque chose qu'on retrouve encore, je trouve. Des gens qui, finalement, estiment qu'ils font tellement de sacrifices... qui peuvent être qui peuvent en exiger voire en imposer à ceux qui on ne leur a pas forcément demandé grand chose. Après bon, il va faire qu'est-ce qui peut être rigolo. Alors ouais, ça tu reviendras j'imagine pendant la phase critique théorique, c'est que très très tôt lui il pense que après en dehors des parallèles historiques qu'on peut faire, un parallèle qui est vachement intéressant, c'est le parallèle avec la République de Platon. Où il va dire finalement c'est des platoniciens. Parce qu'il y a les bolcheviks qui occupent la place du philosophe roi, chez Platon. En gros, pour Platon, c'est ceux qui connaissent la vérité qui doivent gouverner. En aparté, Badiou se dit aussi platonicien. Parce que justement, la vérité n'est pas démocratique, elle n'est pas soumise au vote. Il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est faux, et si on connaît le vrai, on peut l'imposer aux autres, puisque c'est vrai. On ne va pas voter, c'est vrai. Alors ça c'est rigolo parce qu'en fait c'est pas des rationalistes désireux de vérité, c'est des dogmatiques.
Et ça c'est très important parce
que ça c'est super important
parce que ça c'est
et c'est la confusion que font plein de gauchistes actuellement à mon sens là-dessus, mais bon.
Ouais. Bah, c'est surtout que c'est un point très important pour évaluer la question du socialisme scientifique, qui est quand même la définition, enfin l'aspiration du marxisme, et qui a été durcie encore par les interprétations et la lecture de Lénine. Donc l'idée que effectivement la théorie que le bolchevisme est au fond une position scientifiquement étayée sur un socialisme scientifique, et il dit le problème c'est que Russell il a une culture scientifique et il a une réflexion sur l'épistémologie, sur ce que c'est que la science, et il sait que par définition une théorie scientifique elle doit être contestable, elle doit être réfutable, elle doit pouvoir être remise en question, remise en discussion, et qu'elle n'est scientifique que si elle est susceptible d'être mise en question, et évidemment le fait de la manière dont les bolcheviks interprètent les théories de Marx et voilà, bon, l'idée qu'il y a une espèce de mouvement inexorable de l'histoire vers une espèce d'auto-sabotage du capitalisme, mais qu'il faudrait quand même accélérer de manière révolutionnaire pour installer une société sans classe qui est évidemment l'avenir de l'humanité, qui va permettre de régler tous les problèmes qui sont posés par la plupart des problèmes politiques soulevés par le capitalisme. Russell prend ça comme une hypothèse, mais il la prend sérieusement comme une hypothèse. C'est-à-dire que si on la prend ça comme une hypothèse, si on prend cette hypothèse au sérieux, pardon, et ben du coup il faut pouvoir l'évaluer, savoir effectivement ce qu'elle a de crédible, ce qu'elle a de pas crédible, à partir de quand on la rejette, à partir de quand on la valide, qu'est-ce qu'on en garde, et c'est comme ça qu'il fonctionne, hein, très exactement dans le voyage, parce que comme tu dis, bon, il y a ces visites là avec ces témoignages assez marrants sur les délégations qui chantent l'international, les coups de fusil en l'air, les on trinque, etc. Et il y a aussi en fait des questions très concrètes qui se posent sur la question, voilà, quel est le développement industriel, qu'est-ce qu'on trouve dans les magasins, quel est l'état de la production alimentaire, quelle est la taille des magasins devant les boulangeries, où en sont les écoles, quelle est la dureté du rationnement. Et il faut dire les choses quand même, il le fait de manière honnête, hein, faut quand même il est pas là en train de dire, bah voyez, ces gens meurent de faim, l'industrie, il y a plus rien qui marche, ils produisent plus rien, tout a été aspiré par l'économie de guerre, et puis derrière il y a plus rien, voilà. Non, c'est pas ça. Il sait que, hein, le contexte effectivement est catastrophique, et voilà, qu'ils ont, il y a des
oui, il parle de l'organisation, il dit oui, bah effectivement, Russie, c'est désorganisé, mais actuellement à la tête du pays, il y a sans doute les gens les plus organisés.
C'est ça. Donc il reconnaît, et en même temps, il reconnaît, je trouve ça assez fin sa position là-dessus, parce qu'il reconnaît à la fois une espèce de culture de l'organisation dans le parti bolchévique, et notamment chez ses leaders, il y a une culture de l'organisation. Et en même temps, il y a des tas d'erreurs d'organisation. Voilà, les deux sont pas incompatibles. Hein. Et c'est important parce que du coup,
c'est lié aussi à des erreurs théoriques.
Et c'est lié à des erreurs théoriques, exactement. C'est exactement ça.
Souvent, il y a cette vision finalement très très république de Platon avec des ordres. Donc au début, il y a les gardiens, c'est-à-dire les philosophes froids ou les bolcheviks. Il y a l'armée rouge qui sert de gardien. Je me suis trompé. C'est les gardiens, c'est le deuxième niveau. Ouais. C'est l'armée rouge. Mmh. C'est ceux qui sont là pour assurer l'ordre finalement. Et puis après, il y a les producteurs qui eux n'ont pas accès à la décision politique. Mmh. Et c'est une vision qui finalement est assez amusante parce que voilà, Marx, finalement, le marxisme accouche d'un système platonicien où le pouvoir atterrit dans les mains d'une minorité qui n'est absolument pas prolétaire. Et là-dessus, il va dire tout un tas de choses qui... Alors après, bon, ouais, il y a deux, trois machins qui sont prophétiques aussi dans son bouquin.
Oui,
on pourrait les évoquer parce que c'est très, très fort. Ouais. C'est-à-dire qu'en 1920, il voit à peu près... Alors, il n'est pas prophète au sens où... il va pas pointer la possibilité qui s'est réalisée, mais il pointe toutes les possibilités, enfin beaucoup des possibilités qui se sont réalisées, de façon plus ou moins mélangée. Par exemple, la résurgence du nationalisme russe, il la voit en 1920, et justement à cause de Trotsky au théâtre, qui fait applaudir à la salle l'armée rouge. Et leur victoire, et leur bidule, leur machin. Donc là-dessus aussi, vous pouvez trouver, alors après c'est des... Ces prophéties qu'on trouve déjà quasiment chez Bakounine, hein, sur qu'est-ce que deviendrait un pouvoir socialiste autoritaire. Malgré tout, en 1920, quand l'URSS est en train de naître, avec l'espoir que ça suscite, c'est pas forcément évident de les voir aussitôt.
Non. Peut-être t'as aussi la vision, t'as un chapitre sur les relations internationales que je trouve assez impressionnant. Ou en fait, il analyse la manière dont l'URSS va se positionner vis-à-vis des pays occidentaux, la France, l'Angleterre, etc. En posant la question, justement, voilà, selon le positionnement de l'Union soviétique, qu'est-ce qui augmente les chances d'une révolution en Angleterre? C'est d'abord ça qui l'intéresse parce que c'est le pays où il vit. Voilà, donc comment ça peut marcher? Il voit aussi il prédit pas, mais il est pas loin sur les politiques expansionnistes à l'est. Hein, donc évidemment, pour lui, les deux cibles de choix derrière, ça va être l'Inde, donc source de conflit avec la Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, il envisage déjà la décolonisation de l'Inde en se posant la question de savoir du coup si ça risque pas de renforcer un nationalisme anglais qui minimiserait les chances révolutionnaires. Donc en fait, il voit des coups comme ça à deux trois bandes. C'est en 1920, c'est quand même pas rien. Et puis pour le coup, il a une vision très très claire de la et là il a quand même 25 ans d'avance et puis une guerre mondiale d'avance sur la guerre froide. La guerre froide qui va se profiler, hein. Alors là c'est page 110, ça c'est dit tel quel, c'est donc il dit voilà, qu'ils choisissent la révolution ou l'empire, il est vrai que le bolchevisme puissance mondiale sera tôt ou tard amené par son succès même à entrer en violent conflit avec l'Amérique. Et l'Amérique est jusqu'à présent plus solide et plus forte que tout ce que les disciples de Mahomet ont eu à vaincre. Alors oui, parce qu'il reprend ça, ça c'est un passage que je trouve extraordinaire, moi personnellement, dans lequel il compare justement ce que tu disais tout à l'heure. Ça, je trouve que c'est, il compare le bolchevisme à une religion, et en particulier à l'islam, et ça je trouve que c'est une constante chez lui. Peut-être, Russell est peut-être le philosophe le plus anti-religieux du XXe siècle, voilà. Et le plus efficace, je dirais, dans sa critique des religions. Lui, il s'inscrit dans la tradition de l'attitude, non seulement de la culture scientifique, mais de ce qu'il appelle l'attitude scientifique à l'égard du monde. C'est-à-dire une attitude qui s'appuie sur des faits, qui s'appuie sur des évidences, et qui tire des conséquences le plus prudemment possible à partir de cela. Et donc, qui se méfie des théories spéculatives, qui se méfie des généralisations hâtives, qui se méfie donc du théorisme philosophique.
Il est du genre à dire oui, je suis logicien, je suis mathématicien, mais il n'y a aucun rapport logique entre mes théories logiques et mes théories politiques. Voilà. Mes théories politiques sont fondées sur d'autres choses, et elles ne sont pas du tout justifiées par ce que j'ai pu raconter en logique.
Donc, c'est un antidogmatique. C'est un antidogmatique, et donc un anti-religieux. Alors, peut-être que je peux vous lire ces deux pages-là, parce que je les trouve, moi, ça résume. En deux pages, il y a des gens qui mettraient des œuvres entières à formuler ça. Alors qu'il dit ça comme ça, donc c'est juste avant là, le passage que je vous ai cité. En tant que phénomène social, écrit Russell, il faut voir dans le bolchevisme une religion et non un mouvement politique ordinaire. On peut en gros diviser les attitudes mentales importantes et efficaces vis-à-vis du monde en attitudes religieuses et en attitudes scientifiques. L'attitude scientifique, expérimenter, progresser petit à petit, croit à ce qu'elle tient pour évident, mais pas plus. Depuis Galilée, l'attitude scientifique s'est montrée toujours plus apte à établir des faits et lois importants, admis par toutes les personnes compétentes, sans qu'interviennent le tempérament, l'intérêt personnel ou les pressions politiques. Depuis toujours, presque tout le progrès dans le monde est dû à la science et au sang-froid scientifique. Presque tous les principaux fléaux sont dus à la religion. Par religion, j'entends un ensemble de croyances tenues pour dogmes qui régentent la conduite de la vie, outrepassent ou contredisent les preuves et s'inculquent par des méthodes affectives ou autoritaires mais non intellectuelles. D'après cette définition, le bolchevisme est une religion. Que ces dogmes aillent au-delà ou à l'encontre de l'évidence, j'essaierai de le prouver dans les pages suivantes. Ceux qui acceptent le bolchevisme deviennent imperméables à l'évidence scientifique et commettent un suicide intellectuel. Et cela, même si toutes les doctrines du bolchevisme étaient vraies, puisque n'est toléré aucun examen impartial de ces doctrines. Qui croit comme moi que le libre esprit est l'agent moteur principal du progrès humain ne peut qu'être aussi fondamentalement opposé au bolchevisme qu'à l'Église de Rome. Et je termine sur le paragraphe suivant. Parmi les religions, le bolchevisme est plus proche de l'islamisme que du christianisme ou du bouddhisme. Pourquoi ? Parce que le christianisme et le bouddhisme sont avant tout des religions personnelles, avec des doctrines mystiques et l'amour de la contemplation. L'islamisme et le bolchevisme sont des religions pratiques, sociales, non spiritualistes, désireuses de conquérir l'empire d'ici-bas. Leur fondateur n'aurait pas résisté à la troisième tentation du désert, c'est celle où effectivement Jésus se retrouve seul parmi seul au milieu du désert. Ce qu'a fait l'islamisme
avec le diable qui lui promet le monde.
Exactement. Ce qu'a fait l'islamisme pour les Arabes, le bolchevisme peut le faire pour les Russes. Ainsi, à l'issue du combat aux politiciens ralliés aux prophètes, seulement après le succès, et les communistes sincères succomberont peut-être aux ouvriers communistes de la 11e heure. Et on a cette... Alors là, c'est... Vous voyez comment en deux pages, si vous voulez, voilà, il cible une forme de critique du bolchevisme, voilà, comme religion. Hein, et comme religion. Alors... Peut-être on fait une petite pause musicale avant de terminer sur les outils critiques hein, qui met en place.
Yeah.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et donc nous avons été déconcentrés par Willy d'Entre Chien et Loup qui vient d'arriver en studio et qui nous fait des grimaces depuis la régie. J'imagine qu'il aura des trucs bizarres à vous faire écouter après. Et je le vois qui brandit avec les USB comme une massue. Et là vous venez d'entendre, j'arrive jamais à prononcer ces trucs là, Slogfag, si je traduis vite fait, c'est le poulailler de Russell. Donc c'est un morceau américain de 2014. Et donc on vous parlait du bouquin de Bertrand Russell, ce logicien anglais du XXe siècle, qui s'intitule donc Pratique et théorie du bolchevisme. Jean-Mathias venait de vous lire un passage où finalement Russell poursuit la comparaison entre bolchevisme et religion pour expliquer que justement le bolchevisme est tout sauf scientifique finalement et que
qu'il est donc religieux.
Et qu'il est donc religieux.
Qui est donc religieux, c'est-à-dire qu'effectivement, il interdit l'examen critique de ses positions. Et donc,
Russell pense qu'il est plus proche de l'islam dans la mesure où il est direct. C'est une religion qui est directement politique. Alors sur l'islam, il est un peu caricatural parce qu'il y a des formes mystiques de l'islam, des formes contemplatives, le soufisme, d'autres trucs. Mais malgré tout, c'est vrai que contrairement au christianisme, l'islam s'est retrouvé directement en position d'exercer le pouvoir et non pas d'être persécuté par le pouvoir. Ce qui a débouché sur des formes finalement un peu différentes de développement. Alors tu voulais poursuivre sur...
Moi en fait, peut-être pour terminer sur... il faudrait regarder ça de près, la deuxième partie, parce qu'elle est, c'est une critique assez, assez serrée, hein, qui est très accessible, hein, vraiment, j'insiste là-dessus. La critique de la théorie bolchevique, donc il remet en perspective le matérialisme historique, l'idée que là, ce sont les rapports de force matérielle qui déterminent les évolutions et les grandes transitions en histoire, donc il remet ça en perspective. Mais pour moi, je trouve que les deux axes critiques, les plus intéressants chez lui, et c'est aussi ceux, au fond, voilà, c'est ceux qui se rapprochent le plus des analyses libertaires. C'est le premier, celui que je viens d'indiquer, c'est-à-dire le caractère religieux, dogmatique et au fond fondamentalement autoritaire du bolchevisme et des interprétations bolcheviques du marxisme, hein, pour dire les choses comme ça. Et l'autre aspect sur lequel peut-être on pourrait dire deux mots pour terminer, c'est que au fond ce que Russell reproche aux bolcheviques, c'est de se cacher derrière une théorie dite matérialiste, dans laquelle, finalement, ce sont les intérêts matériels des individus qui sont censés donner le facteur explicatif, ultime de leur comportement, de leurs décisions individuelles et collectives. Donc, en fait, c'est ça, hein, une manière de comprendre le matérialisme historique est là. Et au fond, il leur reproche d'utiliser cette théorie pour dissimuler leur mauvaise foi à l'égard de leur goût du pouvoir. Au fond, si j'y résume ça comme ça, on a parlé de l'appétit pour la violence ou pour la brutalité, mais en fait, ce qu'il y a derrière ça, d'après Russell, et je suis fondamentalement d'accord avec ça, c'est l'idée que derrière les théories et derrière le dogmatisme bolchevique, il y a avant tout une espèce de passion effrénée du pouvoir et une passion du pouvoir absolu, c'est-à-dire d'un pouvoir qui ne serait soumis à aucune limite, qui ne serait soumis à aucune contrainte, hein, de la part de ceux sur qui il s'exerce. C'est-à-dire que c'est une théorie qui est formatée pour ceux qui vont exercer le pouvoir, hein, pour ceux qui vont gouverner. Et ça, effectivement, alors que Russell ne nie absolument pas, évidemment, que les intérêts matériels puissent avoir un rôle dans l'explicatif et même fondamental, même central, hein, dans les comportements. Mais il dit qu'il n'y a aucune raison de supposer que ça exclut d'autres facteurs. C'est quelqu'un qui est toujours très attentif, par exemple, aux passions, hein, aux passions, aux instincts, même. Hein, il y a un souci presque anthropologique ou même physiologique, hein, parfois, derrière ces analyses. Donc il est très sensible à ça, et ça n'est pas fort. Les passions ne vont pas forcément dans le sens de nos intérêts matériels. Hein, parfois, ils s'y opposent. Hein. Donc il est très sensible à ça, et il est très sensible, parmi ses passions, à une passion particulière qui est celle du pouvoir. Qui est une passion qui est très facilement, furtive, parce qu'elle peut très vite être rationalisée. Elle peut très vite prendre l'apparence d'un calcul d'intérêt, ou très vite prendre l'apparence d'une conclusion de raisonnement. Alors que en réalité, elle fonctionne comme une passion. Là, il y a une petite analyse, par exemple, où fait très rapidement, où il explique que le point de vue bolchevique et la manière dont effectivement cette espèce de primat accordé aux intérêts matériels, il explique que c'est un point de vue qui n'est pas sans un certain réalisme désabusé, séduisant pour des idéalistes qui voudraient se croire cyniques. C'est comme ça qu'il analyse en fait le soutien ou la séduction que peuvent exercer les théories bolcheviques sur les intellectuels au fond il y a ça derrière lui, hein. Il s'adresse aussi à ce type de sensibilité là, à ce type de profil là.
Et c'est aussi c'est un point commun avec Orwell, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la façon dont les intellectuels peuvent chercher à exercer le pouvoir. Et dans quelle mesure ils vont justement utiliser de manière malhonnête leur capacité intellectuelle
pour rationaliser leur passion,
pour camoufler
leur passion ou leurs intérêts, et souvent les deux. Et en fait, il pose les questions du coup de manière très très franche, notamment sur les dérives, les futures dérives bureaucratiques et les futures dérives autoritaires et policières du régime. Et alors, il formule ça assez clairement à la fin dans l'analyse qui est dans la critique qu'il fait des conceptions révolutionnaires et dictatoriales qui sont mises en avant dans le bolchevisme. Il explique ça comme ça. C'est assez limpide. Il dit, peu de gens renoncent volontiers aux douceurs du pouvoir. Le pouvoir est encore plus doux à ceux qui y sont habitués. Et plus encore s'ils ont gouvernés, protégés par des baïonnettes et sans soutien populaire. N'est-il pas quasiment inévitable que des hommes placés dans la situation des bolcheviks en Russie et qui déclarent que les communistes doivent prendre le pouvoir partout où s'impose la révolution sociale, n'est-il pas donc quasiment inévitable qu'ils répugnent à renoncer à ce pouvoir exclusif et trouvent les raisons de s'y maintenir jusqu'à ce que quelques révolutions nouvelles les enchassent ? Ne leur serait-il pas fatalement facile d'octroyer des salaires considérables aux dirigeants et ainsi de réintroduire sans altérer la structure économique les anciennes inégalités ? Quelle raison aurait-il de ne pas agir ainsi ? Quelle raison y a-t-il en effet sinon l'idéalisme, l'amour de l'humanité, raison non économique et du genre que justement les bolcheviks décrit ? Et
décrit au sens de critique, c'est-à-dire
du point de vue même de la théorie des bolcheviks, il est pratiquement inévitable d'une certaine manière qu'ils mettent en place une bureaucratie tyrannique. Ou alors, il faut réintroduire d'autres paramètres, des paramètres de nature morale ou de nature psychologique, que justement les bolcheviks ne veulent pas prendre en compte. Et c'est en ça qu'ils ne sont pas, et c'est le point qui est important, c'est en ça que les bolcheviks, au fond, ne sont pas réalistes. D'après Russell, ils se posent comme des réalistes, comme une espèce de réalisme de la violence. On ne fait pas de mettre sans casser les œufs. On est prêt à assumer les contraintes du pouvoir et la violence qui va avec, etc. Mais au fond, ils ne le sont pas, parce qu'en réalité, si on tire les conséquences de ce qu'ils disent, de ce qu'ils prônent, ce qui se profile de manière quasiment inéluctable, c'est une bureaucratie tyrannique et policière.
Parce que selon leurs propres critères, ils n'ont aucun intérêt à faire la révolution
absolument,
pour les autres.
Absolument, absolument. Et donc, le point, alors, toujours sur cette idée de pouvoir, il formule les choses aussi, les passages comme ça qui sont assez fulgurants, je trouve. C'est la théorie bolchevique me semble dans l'erreur quand elle se concentre sur un seul mal, l'inégalité des biens, source de rechef de tous les autres maux, selon les bolcheviks. Hein. Je ne crois pas qu'on puisse ainsi isoler un mal unique. Mais si j'avais à choisir le plus grand des maux politiques, je choisirais l'inégalité des pouvoirs. Je nierai en outre qu'on puisse y remédier par la lutte des classes et la dictature du Parti communiste. Seule la paix, puis une longue période d'amélioration progressive pourrait y mettre fin. Ça, c'est un point qui est, il me semble, très important aussi, parce que c'est ce qui l'amène, au fond, à critiquer non seulement la dictature du prolétariat, mais au fond, l'idée d'une révolution violente. C'est-à-dire qu'il ne croit pas que le socialisme, qu'il appelle de ses voeux, et qui représente à peu près la seule perspective valable pour lui et dans la situation dans laquelle il se trouve, il ne pense pas que le socialisme puisse advenir suite à une révolution violente. Et certainement pas avec les justifications et avec les méthodes et avec les cadres et les leaders qui sont ceux du bolchevisme russe. Toute qualité dont ils peuvent faire preuve par ailleurs. Hein. Encore une fois, on renvoie à ces portraits qui sont assez étonnants, hein, de Lénine notamment. Et puis il y a l'espèce d'anti-Lénine d'une certaine manière sur lesquels le Russell s'attarde un peu et qui est en train de décliner, de qui est déjà à la fin de sa vie, c'est Gorky, incarne effectivement l'âme du désir de justice absolue russe et en même temps d'une forme de socialisme qui serait soucieux d'un progrès culturel, un progrès de civilisation réel et réellement attentif finalement à l'égalité de tous.
Hein. Mais qui se trouve de façon très très symbolique, malade au moment
exactement,
où Russell lui rend visite.
Voilà. Et on a les deux pôles du spectre là.
Ouais, entre Lénine et Gorky. Ouais. Alors donc on vous parlait donc de Pratique et théorie du bolchevisme de Bertrand Russell, que vous pourrez trouver aux éditions du Croquant. C'était republié en 2014. Et voilà, on va vous mettre un petit morceau pour permettre à Witt se mettre en place pour Entre chien et loup de Veslivy Otkaz, un groupe russe, et c'est un morceau de 2012 qui s'appelle De Bolchevik, et ça signifie le nom que je viens de vous dire, refus poli. Voilà, donc on se retrouve plus tard et on vous laisse dans les mains de Willy après.
Улицы тянут за горизонт, тащатся по ним москвичи. И я же доволен жизнью своей, целый день кладу кирпичи. Я на работе, ох, устаю, не могу закончить движе. Деву поймать, напоить, пригласить, танцевать. Танцы потока.